Radio Kenny, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are coming here parents. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capula, you a monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été.
Bonsoir.
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 Vous êtes bien sûr Radio Canu, c'est l'heure des infos.
Et c'est l'été.
Et c'est l'été. Il est 19h passé de 4 minutes.
Et on part pour un fil avec, pour commencer, une marche funèbre. Donc on parlera d'éléments du modem qui sont en train d'exploser en vol, mais ça c'est pour tout de suite après.
Oui, en même temps on va pas s'y attarder énormément. Voilà. On s'attardera certainement beaucoup plus sur le réseau sortir du nucléaire qui demande au nouveau ministre de la transition écologique, j'ai nommé Nicolas Hulot, de ne pas signer le décret qui autoriserait le démarrage du réacteur de Flamanville, et avec de très bonnes raisons, on verra.
On pourra aussi parler de cette tendance à mourir de chaud au premier degré, hein, c'est presque le cas de le dire, qui vient d'être proposée par des scientifiques très sérieux.
Donc on va mourir de chaud. On ne fera pas une démonstration en direct dans ce studio.
Non. Ensuite, on continuera dans les joyeusetés. On parlera d'un sale climat de répression qui règne à Rennes.
Moi, à un moment, il faudra que je vous raconte des histoires de flics américains qui tuent des noirs américains. C'est banal, mais ça arrive encore et toujours. J'ai la dernière fois lundi.
Voilà, on en parlera peut-être aussi d'une section frontières. Et je vous parlerai des frontières qui riment avec honoraires. Voilà.
Ah, et puis tant qu'on va être sur les frontières, on relayera un petit article, comme souvent, un petit article du site Passeurs d'Hospitalité sur les assauts à Calais qui saisissent à nouveau le tribunal administratif comme elles l'ont fait il y a déjà deux ans. Mais tant qu'on y sera, on écoutera un petit son qui nous parlera de la vie du site Passeurs d'Hospitalité, parce que depuis le temps qu'on s'appuie dessus, ça vaut bien le coup de savoir un peu ce qui se passe chez eux.
Et puis, si on a un peu le temps, on parlera d'une espèce de graine de management dégoûtant qui sévit chez Cocopelli.
Et puis moi, une fois que j'aurai laissé parler tous mes camarades, et si jamais j'ai le temps de finir ce que je suis en train de préparer, on parlera un petit peu de Frontex, hein, pour finir ces infos.
Et on terminera peut-être par une suggestion de lecture, un livre qui se passe du côté du Congo.
Et on dit tout le temps si on a le temps, mais il faut bien dire que encore une fois, Méga Combi nous a volé 2 minutes.
C'est salaud.
Hein. Allez, on commence donc par une marche funèbre. C'est vraiment pas très intéressant, mais ça s'est passé vraiment tout à fait aujourd'hui. Il y a eu ce qu'on appelle une explosion en vol, mais c'est une image, puisqu'il y a eu un départ simultané dans les starting blocks du gouvernement de Monsieur François Bayrou et de sa collègue Marielle de Sarnez. Bien avant, il y avait eu, il y a 2-3 jours, une autre personnalité du Modem, à savoir Sylvie Goulard, qui avait quitté son poste.
C'était hier plutôt.
Voilà. Et puis, voilà. Donc
encore avant-hier, je dirais, il me semble, il y avait eu le très fameux, j'ai déjà oublié son nom.
Ferrand. Voilà, qui était parti, mais qui a été stratocatapulté en tant que responsable du groupe En Marche du côté de l'Assemblée. Voilà, donc c'est l'histoire. Vous vous rappelez peut-être de Coluche, hein, de cette histoire de comment on lavait plus blanc que blanc. On soulève la crasse, on nettoie la crasse et on laisse retomber la crasse. C'était très très fort ce que disait Coluche. Et là, c'est un petit peu ce qui s'applique au ministre de la Justice, qui n'est plus ministre de la Justice, puisque Bayrou voulait laver très très blanc, mais manque de bol, il avait oublié de laver son t-shirt. Et il y avait quand même des sacrés taches dessus, donc du coup tout ce petit monde est sorti. Voilà, c'était un peu les infos du jour dont vous entendrez parler par Mons et par vous.
Lui qui a rêvé toute sa vie comme ça en entier de finir, de faire Premier ministre, et ben c'est raté.
Et voilà, finalement il aura été ministre un petit peu, mais pas longtemps. C'est moi là, sortir du nucléaire. Allez, sortir du nucléaire. Publie aujourd'hui une lettre ouverte.
Non, j'ai mis une petite musique, mais tu voulais pas que je la mette. Hein.
Ah. C'est la fête de la musique, mais c'est dehors, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas la fête de la musique, la radio. Là.
Allez. Allez, vas-y.
Donc, okay. Looper, ça c'est vraiment quelque chose de super, ça rime et tu vas nous en parler.
Et
en...
donc, Sortir du Nucléaire qui nous publie aujourd'hui une lettre ouverte adressée au nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et qui s'intitule « Monsieur Hulot, protéger les populations, pas les intérêts de l'industrie du nucléaire ». Et Sortir du Nucléaire réclame du ministre un geste, ce qui serait un geste politique fort, ne pas signer les décrets autorisant la mise en service du réacteur de l'EPR de la centrale de Flamanville. Alors, pourquoi ? Bon, résumé des gens qui... Pour les gens qui se sont pas intéressés au truc, qui ont tout écouté d'une oreille distraite, on va revenir sur, quand même, un des soucis principaux de ce réacteur, au-delà d'être une centrale nucléaire, ce qui est déjà en soi un souci de toute façon, et de produire des déchets nucléaires, ce qui en soi est un deuxième souci. Mais alors là, on a quand même une sorte de souci en plus. C'est le fameux souci de la cuve. Alors, la cuve sortie des ateliers du Creusot avec des certificats de conformité falsifiés possède un taux de carbone dans l'acier qui est deux fois supérieur à ce qu'il devrait être, ce qui donne à cette cuve une fragilité en cas de choc thermique. Alors, les chocs thermiques, bien sûr, il n'y en a pas tous les jours. Mais enfin, pour peu qu'il y ait un petit incident, un petit incendie, des choses qui, pareil, il n'y a pas tous les jours, mais en tout cas qui peuvent arriver à des moments, en cas de choc thermique, la cuve, elle pète, et si cette cuve pète, tout pète. Donc voilà, et en l'occurrence, si elle pétait un peu, une petite lézarde risquerait de devenir immédiatement une grande lézarde et de laisser échapper de la radioactivité, voire énormément de radioactivité. Pourquoi est-ce que Sortir du Nucléaire fait cette demande aujourd'hui ? Eh bien, il faut savoir que l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui est cette espèce d'organisme en France qui est un peu le gendarme de l'atome, les gens qui sont
indépendants, a priori.
C'est ça, théoriquement indépendant, enfin même relativement indépendant. On ne sait pas dans quelle mesure indépendant, ça va être un test dans les jours qui viennent. Donc l'autorité de sûreté nucléaire s'apprête, avant la fin du mois de juin, à rendre un projet de position sur la viabilité de la cuve. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas trop s'ils pensent que oui, non, en réalité, on aura une décision ferme et définitive en septembre, mais ils vont déjà dit dans la semaine qui vient si oui ou non ils trouvent que cette cuve est viable.
Voilà, il faut bien être conscient que c'est fait donc dans les usines du Creusot, donc à Le Creusot, et que pour faire une cuve, déjà, il y en a qu'une qui a été faite, et puis c'est une cuve qui a des bords assez larges, c'est pas 3 cm, j'ai pas les chiffres, mais c'est quelque chose de gigantesque.
C'est quelque chose qui est plus grand que notre maison.
Voilà, c'est ça, il faut imaginer quelque chose d'absolument incroyablement géant, qui bien entendu ne peut pas être refait comme ça, et c'est pour ça que je suppose qu'ils sont en train de se dire, voilà.
Non seulement on peut pas être refait comme ça, mais si jamais la centrale est mise en route avec la cuve c'est l'élément qui peut jamais être changé.
Voilà.
Alors on sait aussi que les centrales sont prévues pour une certaine durée de vie, que celles qui ont été construites en 75 ont été prévues pour durer 30 ans, que ça fait maintenant largement 40 ans et qu'il n'est toujours pas réellement question de les arrêter. C'est-à-dire que là, on partira avec une cuve pourrie et que vraisemblablement, cette cuve pourrie va rester en place extrêmement longtemps si l'EPR est effectivement mis en route. Alors, Sortir du Nucléaire met en même temps en ligne une pétition qui est adressée au président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui s'intitule « Ne validez pas la cuve défectueuse de l'EPR ». Si jamais on croit aux pétitions, elle est très facile à signer sur le site de Sortir du Nucléaire. Parce que, alors pour l'instant, si on en croit le Figaro, l'ASN serait plutôt sur le point de donner son feu vert.
Attends, tu lis le Figaro pour préparer les émissions ?
Mais bien sûr.
Ah d'accord.
Bien sûr, monsieur. Ah mais si tu savais tout ce que je lis, des fois c'est...
Donc si l'on en croit le Figaro, tout on à est fait. À deux doigts d'y ramasser.
Sortir du Nucléaire pense que la décision, cette décision de donner le feu vert va surtout être prise sous une énorme, énorme, énorme pression politique. Et sa porte-parole nous explique que depuis des mois, EDF se permet de dire que les résultats sont rassurants, que l'autorisation sera accordée, et répète que de toute façon, il n'y a pas de plan B si l'EPR était refusé. Les enjeux sont trop énormes pour que le pouvoir politique ne s'empare pas du dossier. Alors jusqu'ici, l'ASN, donc il y a une autorité administrative indépendante du pouvoir politique, a fait preuve d'une certaine liberté de parole, voire adhément vraiment d'une sorte de sévérité. Un truc plutôt inattendu dans l'histoire de l'atome français un peu. Alors Lobs, tu vois, je lis vraiment plein de choses étonnantes. Pense que c'est surtout dû à la personnalité de son directeur, un gars qui s'appelle Pierre-Franck Chevet, qui lui sort complètement du monde du nucléaire, mais il semble qu'après la catastrophe de Fukushima, il se soit dit ouïouï, les centrales ne sont pas... il peut arriver des accidents et on n'est pas sûr que les centrales soient capables de résister à tous les accidents qui puissent arriver. En l'occurrence, Fukushima, on se rappelle, c'était un raz-de-marée.
Voilà, on peut quand même s'étrangler sur le fait qu'il s'en rend compte en 2011, alors que sortie du nucléaire existe depuis au moins les années 70.
Ouais, c'est ça. Mais alors, pour l'EPR, ça va peut-être pas être le moment le plus facile pour l'ASN pour faire péter le point sur la table, parce que on a des histoires d'impact économique et politique un peu gigantesques. Alors toujours Charlotte Mijon, la porte-parole de Sortir du Nucléaire, si l'autorité de sûreté nucléaire recalait l'EPR de Flamanville, le chantier serait à l'arrêt. Cela jetterait le discrédit sur tous les autres chantiers EPR qu'EDF a à l'étranger. Économie française, blablabla. En particulier le chantier de Hinkley Point, qui est un truc que EDF a réussi à vendre aux Anglais, qui déjà sont tâtés, on le prend pas, nanana. Bon, finalement, ils ont pris un chantier d'EPR, ils ont pris un projet d'EPR à EDF, mais il faut quand même bien dire que l'EPR de Flamanville est pas une hyper bonne pub. Et donc là, de moins en moins, quoi. Et si jamais l'ASN disait arrêtez les frais à Flamanville, les Anglais regretteraient encore plus. Cela empêcherait de plus EDF de racheter New NP, c'est-à-dire l'ancien Areva NP, c'est une filiale d'Areva, dont la commission de Bruxelles n'a autorisé le rachat que si l'EPR recevait le feu vert de l'ASN.
Donc encore une fois, c'est les commissions
des
européennes.
Des soucis de pognon, de gros sous, ouais. D'emploi, de machin. Mais alors voilà, vaut-il mieux être vivant et au chômage ou travailler jusqu'à la mort.
Mais c'est le problème de
avec un truc qui risque de vous péter dans les doigts et un sacré truc qui risque de vous péter.
Voilà, le principal problème de l'EPR, c'est un peu le théorème de l'autobus, c'est si vous attendez l'autobus et puis vous l'attendez 30 minutes, ça commence à faire long, vous l'attendez une heure, vous trouvez que ça fait vraiment très long, mais le problème c'est que vous dites, si je m'en vais, ça se trouve il va arriver tout de suite. Donc c'est un peu ce principe avec l'EPR, on n'ose pas se dire qu'en fait cet énorme boost qui a été lancé, il faudrait l'arrêter parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'avait lancé que voilà.
Et puis on a mis tellement de pognon, voilà. Et puis etc etc. Bon, bref, pas sûr que Nicolas Hulot se sente de faire le malin sur ce coup-là. S'il le faisait, alors ce qui serait cohérent avec ses idées, hein, parce que Nicolas Hulot, il est quand même plutôt anti-nucléaire, il pourrait provoquer un cataclysme sans précédent, non pas nucléaire ce coup-ci, mais dans le monde du nucléaire français, mais un cataclysme pour le coup politique et économique. Le monde du nucléaire français qui est déjà empêtré dans un endettement massif, des exportations un peu minables, au point que certains voient le nucléaire comme une énergie obsolète qui est vouée à laisser la place aux renouvelables. Alors on peut quand même rappeler que la Suisse a décidé qu'elle allait arrêter le nucléaire, faire une sortie progressive du nucléaire par un référendum qui a eu lieu en mai dernier, c'est tout neuf. La Corée revoit ses ambitions à la baisse, une firme nucléaire américaine Westinghouse est en faillite. Voilà quoi. Bon, Charlotte Mijon nous dit toujours ce que nous réclamons de Nicolas Hulot, c'est qu'il agisse aussi pour renforcer les moyens de l'ASN. Il est aussi indispensable que le gendarme du nucléaire soit doté justement d'un vrai pouvoir de gendarmerie. Dans le dossier de l'EPR à Flamanville, l'ASN a constamment été mise devant le fait accompli par Areva. Alors que depuis 2005, on savait que les pratiques de la forge du Creusot laissaient à désirer. Ça fait déjà 12 ans. Qu'on sait que l'endroit où est faite cette cuve, les gens bossent n'importe comment. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'autorité de sûreté nucléaire avait pas encore donné son feu vert pour cette histoire de cuve et disait qu'elle se penchait sur le dossier, que la cuve était déjà installée. Comme ça, au moins, leur avis était donné quand même sous une certaine pression. Nicolas Hulot a le pouvoir de changer cela, nous dit Charlotte Mijon. Alors, théoriquement, oui, il a le pouvoir, mais dans la pratique, il y a toute cette pression économique. On sait aussi que Macron est un chaud partisan du nucléaire, qui fait partie des gens qui parlent d'excellence française dans ce domaine, blablabla. Qu'il est dans les gens qui ont vraiment insisté pour vendre ce projet de Hinkley Point à l'Angleterre. Et puis, on sait aussi que le Premier ministre est un ancien cadre d'Areva. Alors, avant d'arrêter avec ça, on va quand même juste... Parce que c'est ça, le nucléaire, tant qu'il n'y a pas une panne, un petit souci, un machin, en réalité, tout va bien. Sauf que des problèmes, il y en a tout le temps. Et donc, hier, L'ASN a demandé à EDF de s'occuper rapidos, c'est-à-dire quand même sous 3 semaines, de défaillances dans les systèmes de sécurité de 8 centrales. En France, quand même.
D'accord.
On en a combien? On sait? On ne sait pas à peu près.
Non, on sait, non, on
a je à peu
sais
près
pas
une trentaine. Il y a une centaine de réacteurs et c'est à peu près 30, je crois, un truc comme ça. 24, 30.
Ok, beaucoup, bah, du coup, ça, 8, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors, je ne me rappelle plus de la liste, hein, mais je pense qu'il y en a des pas très loin d'ici. Bon, en tout cas, c'est rien. C'est une histoire de groupes électrogènes de secours qui sont mal fixés. Mais c'est des groupes de secours, quoi. Et qui sont censés se mettre en route que s'il y a un problème, donc ils servent pas. Et même s'il y a un problème, ils se mettent en route, il y a pas de raison que leur fixation ça soit un problème, parce qu'il y a pas de raison qu'ils bougent. D'ailleurs, EDF nous dit bien, c'est pas grave. Les défauts à l'origine de cette déclaration n'ont eu aucun impact sur la sécurité des salariés ni sur l'environnement. Alors bon, c'est vrai, hein, c'est complètement vrai. Par contre, si jamais il y avait eu un tremblement de terre, s'il y en avait eu un depuis l'installation de ces groupes électrogènes, eh ben oui, ça aurait pu avoir, disons, un certain impact sur les salariés, sur l'environnement et sur la vie des gens dans les quelques centaines de kilomètres alentour.
Et t'étais en train de parler d'énergie et j'en profite pour faire un petit saut dans une thématique assez proche qui concerne en fait le réchauffement climatique et plus exactement les modifications du climat, avec deux papiers qui sont sortis dans le journal Nature Climate Change, qui est donc disons la référence scientifique en termes d'articles qui concernent le changement du climat. Et là, ce qui a été publié le 19 juin en ligne, donc dans cette revue prestigieuse, ça concerne le risque, écoutez bien, de mourir de chaud. Mais vraiment quoi, voilà. Alors en fait, ils ont fait une petite étude que je vais vous expliquer, et ils ont dit que finalement le fait de mourir de chaud, ça pouvait correspondre à un danger qui allait guetter près d'un individu sur 3 dans le monde d'ici quelques années. Voilà. Donc c'est vraiment très 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 fort. Alors voilà comment ils ont fait. C'est une équipe américano-britannique qui a étudié en fait sur les 30 dernières années des pics de chaleur qui ont eu lieu dans les 30 dernières années dans 36 pays et dans 164 villes. Ils ont regardé en fait le nombre de morts qu'il y a eu. Il y a par exemple eu 70 000 morts en 2003 pendant la canicule sur toute l'Europe. Ils ont regardé quels avaient été les effets, les facteurs en termes de d'ensoleillement, d'humidité, de température, de vitesse du vent, etc., etc. Puis ils ont corrélé ça avec le fait qu'il y ait des morts donc de chaud. Voilà. Et puis ils ont trouvé que en fait c'était principalement, on n'est pas très surpris, mais principalement le couple température-humidité qui jouait sur la possibilité de mourir de chaud, et que au-dessus d'un certain seuil qui a déterminé, on avait une grosse probabilité d'y passer, quoi. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans les 30 dernières années pendant les pics de canicule. Et après, ils se sont retournés vers d'autres études qui sont les études du GIEC, donc qui est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors eux, ils utilisent des dizaines de milliers, c'est exactement vrai, hein, des dizaines de milliers d'ordinateurs pour faire ce qu'on appelle des simulations du climat, c'est-à-dire qu'ils font tourner des grands modèles mathématiques qui doivent reproduire le climat des 37 dernières années.
Ils mettent tous les ordinateurs dans une pièce. Ça fait monter la température.
C'est exactement
ça. Fait une simulation.
Ouais, ça doit représenter à peu près la consommation d'électricité d'une ville de 20 à 50 000 habitants. Bref. Donc, eux, ils sont en capacité de prédire le climat et de prédire donc ces mouvements d'humidité et de température tout autour du globe. Donc, si on sait la température et l'humidité qui va faire d'ici quelques années, et si on sait quelle est la température et l'humidité qui tue le monde, eh ben, on peut s'apercevoir que, alors, je vous lis ça, dans le scénario le plus optimiste du GIEC sur le climat, qui suppose qu'on arrive à limiter à 1% le réchauffement en 2100, eh bien la zone de danger de mort, de chaleur, concernerait 27% de la surface du globe et 48% des populations. Ouais. Dans un scénario plus pessimiste, c'est-à-dire dans lequel on ne change rien en termes de rejet carboné, etc., si on continue sur cette façon de croquer les ressources carbone, eh ben on aurait un réchauffement moyen de 3 degrés en 2100, ce qui correspondrait à une zone mortelle pour donc ces histoires de mourir de chaud, de 47% du territoire mondial et 74% des individus. Donc ça serait les 3/3 des individus du monde entier.
Les 3/4.
Ouais, les 3/4, qui seraient en péril de mort, de chaud. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait mettre en parallèle à la discussion qu'on va avoir sur les migrants et sur les questions de frontières. Quand vous aurez 50% des gens qui seront menacés de mourir de chaud, il faudra peut-être se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, un autre article qui est sorti, qui est un peu similaire, toujours dans cette revue Nature Climate Change, assez prestigieuse, qui dit qu'en fait, ça craint grave au niveau des grandes villes. Et ce qui craint encore plus, c'est que en fait tout le monde se met à faire grossir les grandes villes, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de monde dans les grandes villes qui sont de plus en plus grosses et qui sont de plus en plus ce que l'on appelle un... Attendez, j'ai perdu le mot. Qu'est-ce qui s'appelle un espèce d'attracteur de chaleur. Voilà, des îlots de chaleur. En fait, les habitations dans ces grandes villes servent de pile à chaleur, c'est-à-dire qu'elles accumulent la journée la température, enfin le chaud, et puis elles la relâchent la nuit, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir des très grands écarts de température entre ce qui se passe dans les villes et ce qui se passe en dehors. Par exemple, en 2003, si vous étiez en plein milieu du 19e arrondissement de Paris, eh bien il y avait 6 degrés de plus que dans le parc de Vincennes, qui est juste dans le bois de Vincennes, qui est à 10 km plus loin. C'est-à-dire que cette couverture de béton crée localement, donc pas le réchauffement climatique dans le monde entier, mais localement des réchauffements climatiques qui vont faire que ça deviendra insupportable d'y vivre. Voilà. Donc mourir de chaud, ça devient quelque chose qui devient réel. C'est vrai que là on parle de ça pour cette période actuelle de canicule où on utilise cette image, mais
ces chercheurs
nous alarment pour un horizon 2100 où la moitié au moins de la population pourrait être exposée à ce genre de drame. Toujours en direct de Radio Canu avec à peu près 32-33 ouais. degrés dans les studios.
C'est-à-dire que l'hiver, on se plaint pas trop du froid parce qu'on a des chauffages, mais il n'y a pas la clim à Radio Canu. Alors, sale climat de répression à Rennes, alors à inscrire dans le petit guide du troublion. Eh bien, quand la police met en joue des manifestants, ce sont les manifestants qui se retrouvent devant le juge. À Rennes, lors d'une manif, ni Le Pen ni Macron d'entre deux tours, le 27 avril donc, un flic sort son arme de service et braque des manifestants. Ils étaient, petite contextualisation, ils étaient deux flics à moto à se mettre en tête de la manif sauvage à suivre le cortège. L'un des deux motards part plus loin au rond-point suivant certainement pour faire la circulation. Le deuxième tente, avec un élan de zoro un peu, de stopper à lui tout seul le cortège en descendant de sa moto. Ce qui devait arriver arriva. Le cortège lui fonce dessus. Il se prend des coups de pommeau de douche. Il remonte sur sa moto cale, il redescend et pris de panique, il braque les manifestants.
Alors si les gens croient que c'est une blague, il y a des photos.
Il y a des photos.
C'est ça, il y a même un bout de film, si je me trompe, mais en tout cas, il se fait pas lyncher non plus.
Hein. C'est ça, alors, c'est un peu gros débat sur les réseaux sociaux, tout ça, sur Libé. Il y a une tribune de plusieurs écrivains intellectuels, machin, qui ont dit c'est scandaleux ce qui se passe, parce que là, après, il y a eu des perquisitions, on en parlera tout à l'heure. Il y a les désintox de Libé qui ont dit comment ça, vous dites que c'est pas vrai, mais si c'est vrai, il a bien été lynché. Enfin, les désintox qui se positionnent en disant il y a bien eu, enfin, ils qualifient les faits tels que devrait le faire seulement la justice, c'est pas enfin, voilà. Et la police de Rennes qui tweet en disant après cette tribune, voici les photos, voici la preuve. Bon, bref, ça fait tout un espèce de foin. Beaucoup plus d'ailleurs que quand il y a une photo d'un manifestant qui se retrouve seul, lui, face à une ribambelle de flics et qui se fait lyncher, ce qui l'a fait beaucoup moins de bruit. Vous le devinez. Et c'est bien évidemment pas sans rappeler le même genre de situation qui avait fait un peu moins de vagues, hein, où un gars de la BAC à Paris s'est fait griller en train d'infiltrer un cortège. Là aussi, c'était pendant les manifs d'entre-deux-tours, si je me trompe pas. Donc un type de la BAC qui est en train de se faire griller, en train d'infiltrer un cortège de manifestants. Il se fait griller comme flic, se fait fermement raccompagner hors du cortège, et vexé comme un pou, il menace impuissant les manifestants avec sa matraque télescopique et finit par sortir son arme de service qu'il exhibe un peu comme un gamin. On voit des photos là, on le voit un peu. Ou alors qu'il lui pour le coup, il n'y a même pas eu de manifestants qui sont allés dans sa direction. C'est vraiment un signe de attention, je peux faire ça, voilà. Donc voilà, donc pour ce qui est de Rennes, ça aurait pu être de la part de la préfecture, hein, pour ce flic un manquement de discernement, voire une sacrée connerie. Et maintenant, il s'agit pour eux de trouver ces responsables qui se sont fait braquer, de faire 6 perquisitions simultanées à 6h du matin façon antiterrorisme. 7 personnes ont été interpellées, dont 2 ou 3 mineurs, je ne me souviens plus, et seront présentées devant le juge ces jours-ci. Là, je sais, c'est peut-être bien aujourd'hui d'ailleurs. Alors, à cette même manif, hein, toujours dans la même ville forcément, un gars est accusé d'avoir jeté des pierres sur les flics. Bon, jusque là banal, 2 femmes témoignent qu'elles ont vu les flics mettre des cailloux dans les poches du gars pour pouvoir l'accuser. Là, le président du tribunal fait pression sur les témoins. Normalement, ne se fait pas trop, hein, de la part d'un président du tribunal, et rappelle le risque, et insiste bien sur le risque qu'elles encourent à faire un faux témoignage. Là, le gars est condamné à 6 mois avec sursis. Donc, de la part du juge, comme il est condamné, c'est bien que les flics n'ont pas mis les pierres, voilà. Et du coup, juge que le témoignage est donc faux. Mais les deux personnes, les deux témoins, se font arrêter en pleine audience, se retrouvent devant le juge d'instruction, qui lui a l'air de trouver quand même l'affaire un peu tordue et un peu trop rocambolesque. En gros, ça se fait quand même vraiment pas de faire ça. Et place les deux sous le statut de témoin assisté, statut qui est en dessous de la mise en examen. C'est-à-dire qu'on sent un peu le type qui pouvait pas les relâcher direct vis-à-vis de ses collègues, mais qui s'est quand même dit non, on va peut-être pas les mettre en examen pour ça, parce qu'on risque quand même de passer pour des blaireaux.
Alors, est-ce qu'on continue à parler des blaireaux ?
On a dit que c'était moi qui parlais de police maintenant. C'est aux États-Unis, la police de Seattle flingue une femme enceinte. Alors, ça s'est passé lundi et donc deux agents étaient intervenus parce que suite au fait qu'il y a une nana qui les a appelés pour signaler un cambriolage. Alors du coup, ils arrivent chez elle. Je pense qu'elle a dû les appeler pour dire qu'il y avait un cambriolage chez elle. C'était une femme noire, bizarrement. Et puis, quand ils sont arrivés, bon, elle avait un peu pété les plombs et elle avait un couteau à la main. Et donc, ils ont été confrontés à une femme de 30 ans armée d'un couteau. Les deux policiers ont alors tiré, touchant la femme. C'est la déclaration du chef de la police, le communiqué de la police, voilà, quelques heures après l'incident. Les pompiers sont arrivés peu après, ils ont déclaré la jeune femme décédée, selon la police, qui note que plusieurs enfants se trouvaient dans l'appartement au moment des tirs, mais n'ont pas été blessés quand même. Les flics ont descendu la nana, ils n'ont pas non plus tiré sur les gamins.
Bravo.
C'est cool. D'après des membres de la famille, cités par la presse locale, elle était mère de 3 enfants et enceinte de 3 mois et elle souffrait de troubles mentaux. Alors une enquête a été ouverte pour examiner le recours à la force par les deux agents, qui quand même ont pour l'instant été placés en congé administratif pour la durée de l'enquête. La police a diffusé un enregistrement audio de l'accident. Bon, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Apparemment, la police avait déjà eu affaire à cette nana. Et là, du coup, elle avait envoyé 2 flics au lieu d'un, ce qui aurait plutôt été le truc à faire, en raison d'informations selon lesquelles cette nana aurait pu présenter un éventuel danger. Mais alors, la frangine de la nana, elle dit qu'il n'y avait pas trop de raison de lui tirer dessus devant ses bébés. Il pouvait la maîtriser. Moi-même, j'aurais pu la maîtriser. Pourquoi ne pouvait-il pas utiliser un taser contre elle ? La police précise qu'effectivement, les deux flics avaient des armes non létales au moment de l'intervention. Mais c'est des flics américains. Les armes non létales, ils doivent même pas savoir à quoi ça sert. Parce que par contre, ils sortent les flingues tellement ultra automatiquement, surtout quand ils sont en face de noir.
Moi, j'y connais rien, mais il y a peut-être moyen de tirer dans des endroits non létales. Je sais pas si tu tires sur les pieds ou des choses comme ça.
Je crois qu'ils
ont peut-être pas pensé à ça.
Je crois qu'il y a rien non plus qui est complètement sur la dent, parce que tu peux bien buter quelqu'un en lui tirant dans plein d'endroits différents du corps.
Bon.
En tout cas, des dizaines de personnes ont assisté dimanche à une veillée en mémoire de la jeune femme. Le maire de Seattle, Ed Murray, a qualifié l'incident de tragédie et il a promis une enquête complète, soulignant que les policiers de la ville étaient entraînés aux techniques d'apaisement, théoriquement, pour faire face à de telles crises. Alors il faut dire que le maire de Seattle, j'ai regardé un peu, c'est quand même un gars qui est, au-delà du fait qu'il fight bien pour les droits des LGBT, il a quand même à un moment présenté une sorte de loi un peu anti-flingue. Et en fait, ça autorise dans sa ville la police à faire des perquisitions sans mandat une fois par an dans les maisons de tous les possesseurs d'armes à feu. Bon, voilà, c'est... Voilà. Et alors, bien sûr, tout ça se passe alors même que la semaine dernière, en fin de semaine, vous vous rappelez de ce flic qui avait tué un conducteur automobile. Toute la scène avait été filmée, enregistrée et transmise en direct par la copine du conducteur qui était assise à côté de lui. Le flic arrête la voiture pour une histoire de phare cassé. Le gars dit au flic, il y a une arme dans la voiture, mais très calmement. Et là, il rentre sa main dans son gilet pour sortir ses papiers. Et le flic se met à hurler et le flingue. Et voilà, l'enregistrement en tout cas, moi, je l'ai entendu par exemple à la radio. Bien sûr, encore une fois, le conducteur était noir. Et donc, le flic qui avait fait ça a été acquitté la semaine dernière.
S'écouter le mini reportage sur passeur d'hospitalité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce qui se passe sur ce site?
Alors vous voyez ce passeur d'hospitalité, un site dont on se sert régulièrement dans Scanu Info, un site qui existe depuis, me semble-t-il, depuis 3 ans, qui a pris la suite d'un autre site, etc., etc. Ce site était animé jusqu'à maintenant par un gars tout seul. Ce gars s'en va, laisse la place à une petite équipe et ils ont posté une sorte de mini machin où ils parlent de leur passage de relais sur les audioblogs de Arte Radio. Ça dure 4 minutes et on va les écouter parler de ce changement de gestion du site.
Bonjour.
Bonsoir.
C'est donc les passeurs d'hospitalité. On est à Calais avec Philippe Wenceslau. Philippe, je te laisse te présenter.
Du coup, c'est moi qui me suis occupé du blog pendant... 2014, ça a démarré, on est en 2017, un peu plus de 3 ans. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer?
Il se passe que je quitte Calais, donc il y a une nouvelle équipe qui va reprendre le blog. Une nouvelle équipe qui est ici présente, autour de la table.
Youhou!
Salut!
Et pourquoi tu quittes Calais?
Eh ben, dans les mois qui ont suivi mon arrivée à Calais, en fait, j'ai rencontré des gens qui, à l'époque, disaient qu'ils étaient fatigués, mais qui ne décrochaient pas, en fait. Donc, il y a des projets, il y a des assos qui sont un peu mortes comme ça par extinction des personnes qui n'arrivaient pas à laisser la place à d'autres. Et au bout de 8 ans que je suis là quand même, je commence à ressentir cette difficulté de réembrayer sur de nouvelles choses, à retrouver une créativité, à pas voir les problèmes quand ils arrivent à 10 km et donc à être un peu sur la défensive et tout ça. Donc je pense qu'à un moment, faut se dire franchement, voilà, c'est un contexte qui est quand même violent, il y a... un concentré de frustration aussi parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer la situation de manière décisive et qu'à un moment faut décrocher, il faut laisser la place.
Est-ce que t'aimes bien l'équipe qui va prendre le blog?
Ouais, c'est des gens très chouettes.
Elle le dit pas parce qu'elle a un couteau sur sa gorge, vous inquiétez pas.
Non, je le dis en parfaite liberté.
C'est un crayon en fait.
Est-ce que l'équipe, du coup, veut dire un mot sur, sur nos envies ou ce qu'on voudrait faire ou nous présenter? Non?
Moi, je veux bien un dernier conseil de Philippe.
Ben, je pense que chacun va trouver aussi son écriture, sa patte et sa manière de faire. Je pense que c'est bien de garder la pluralité des points de vue, en fait. C'est bien qu'il y ait un socle commun, et ça c'est peut-être à définir à un moment donné, qui ne sera pas le socle de l'aventure, qui a quand même été une aventure beaucoup d'une personne de passeur d'hospitalité jusqu'à présent. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de commun pour que le blog garde une unité, mais en même temps, c'est aussi chacun qui fait son chemin, qui a ses réflexions, qui a sa manière de les exprimer aussi. Et je pense que le fait de s'exprimer librement, de trouver sa manière de dire les choses, et qu'il y ait une diversité dans le blog, ça peut être chouette pour l'avenir, parce que je pense que c'est aussi ces expériences singulières qui apportent quelque chose au lecteur, en fait. Au lecteur, au regardeur, à l'auditeur, si on utilise audio, enfin... Après, je pense que ça peut s'enrichir au niveau des médias aussi, au niveau de l'illustration, au niveau de l'utilisation du son, peut-être de la vidéo. Il y a plein de choses à faire, en fait, en fonction des intérêts de chacun et de chacune. Et il y a plein de manières de regarder, de rendre compte et de transmettre, en fait, des expériences par rapport à la situation calaisienne, avec une ouverture sur un ailleurs, parce que Calais, c'est pas une île, et que c'est relié à des situations migratoires ailleurs, et que ce lien-là, c'est bien de pouvoir le faire sentir aussi.
Et ben donc, continuez à lire le blog, on va être super sympa les premiers jours, au moins, et on va parler d'alcool, et donc, merci en tout cas.
Stay put. À la prochaine, à bientôt. Voilà.
Et voilà, bah en tout cas, un gros merci à l'ancienne équipe de passeurs d'hospitalité.
Et à la nouvelle, puisqu'il me semble bien que les dates doivent laisser penser que c'est eux qui ont mis en place, ont mis en ligne le truc que je vais vous lire maintenant. Donc, depuis comme avant, il y a quand même une bonne partie des articles qui sont des textes qui sont récupérés par ailleurs, entre autres des articles ou beaucoup des pétitions, des communiqués de presse, des machins comme ça. Et donc là, c'est un communiqué de presse signé par une grosse dizaine d'associations, alors des trucs comme la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme, mais aussi et le Secours catholique, qui sont un peu les grosses assos qu'il y a à Calais, dont on n'est pas toujours d'accord avec toute leur manière de voir les choses, mais aussi la cabane juridique, Salam Nord-Pas-de-Calais, en tout cas des gens qui nous sont plus peut-être un peu plus proches. Donc ça s'appelle Calais. Les associations saisissent à nouveau le tribunal administratif. Déni d'humanité, déni de réalité. Des exilés et des associations saisissent dans l'urgence le juge du tribunal administratif de Lille pour lui demander d'enjoindre aux autorités de respecter les libertés et les droits fondamentaux des exilés présents dans le Calaisis. Aujourd'hui, plus de 600 exilés, dont de nombreux mineurs isolés, on en a parlé la semaine dernière déjà, survivent dans le Calaisis dans des conditions effroyables. À l'absence totale de prise en charge sanitaire et sociale, s'ajoute une pression et un harcèlement policier destiné, prétendent les autorités, à éviter tout point de fixation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les migrants s'asseyent sur un banc, il y a des flics qui déboulent pour les faire lever, de manière à ce que vraiment ils puissent se poser nulle part. On a parlé la semaine dernière de la manière dont le défenseur des droits Jacques Toubon a pondu un rapport où il parle de ça. Plus aucun dispositif d'accueil n'existe à ce jour pour les réfugiés qui arrivent à Calais. Les autorités veulent faire croire que la question de la présence des exilés est résolue et que ces derniers n'arrivent plus à Calais. Or, ça fait plus de 20 ans que les exilés viennent à Calais pour tenter de passer vers la Grande-Bretagne, qu'ils y restent aussi longtemps que nécessaire. Ça perdure et ça continuera aussi longtemps que Calais se rapproche des côtes anglaises. C'est pas la peine de penser qu'on va régler le problème en leur rendant la vie invivable, parce que c'est déjà fait énormément. Ce n'est pas en privant les exilés de leurs droits fondamentaux et en leur refusant le minimum de dignité que l'on répondra de façon constructive et pérenne à la question de l'accueil des réfugiés. La solution ne naîtra pas non plus des entraves à l'action des associations et des citoyens qui leur apportent aide et soutien. La politique qui a été menée depuis octobre 2016, c'est-à-dire depuis la destruction du grand bidonville, est une impasse pour les exilés comme pour l'ensemble des Calaisiens concernés. Ce n'est d'ailleurs pas une politique, c'est un déni de réalité, initié dans un contexte de campagne électorale, qui est indigne de notre devise républicaine. C'est pas moi qui parle, c'est les assos qui ont signé le communiqué. Une fois les élections législatives passées, le nouveau gouvernement va-t-il persévérer dans la politique de l'autruche et du tout sécuritaire, ou va-t-il oser regarder la réalité en face, proposer de construire dans la durée une réelle politique d'accueil avec des réponses locales, nationales et européennes adaptées à cette question complexe, face à la situation sanitaire et sociale déplorable que subissent les exilés, et alors qu'il y a urgence à y répondre, nous sommes donc contraints de saisir une fois encore le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin de lui demander de reconnaître les atteintes graves et répétées aux droits et libertés et d'enjoindre aux autorités de mettre en place un dispositif garantissant le respect des droits fondamentaux de base tels que l'accès à l'eau, à des toilettes, à une distribution alimentaire, à une information réelle sur les droits. Alors on se rappelle que cette démarche avait déjà été faite il y a 2 ans et avait quand même mené à ce que l'État soit condamné par le tribunal administratif à installer sur le bidonville des chiottes et un accès à l'eau et puis un ou deux trucs dans le même genre. Et donc là maintenant le bidonville a été rasé, les chiottes et l'accès à l'eau aussi. On sait même que tous les points d'eau publics sont coupés à Calais de manière à ce que les migrants puissent même pas trouver facilement à boire. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que les associations saisissent à nouveau le tribunal administratif.
Une mesure, on en parlait la semaine dernière, qui vise à un peu s'étendre sur le territoire français, puisque sous le coup des fontaines et l'empêchement d'installation et l'interdiction d'apporter à manger aux migrants se généralise à Paris, on peut le voir aussi un peu à Lyon, enfin voilà. Et on reste sur la thématique des frontières et c'est notre cher site Migreurope qui a sorti un petit fascicule pour expliquer un peu le rôle de Frontex et la politique migratoire. Mon camarade a un problème de micro.
Mais je prends l'électricité surtout, je prends des châtaigniers. Voilà.
Alors attention, il y a les morts d'électrocution aussi hein, qui existent, gaffe. Voilà, donc en gros ils ont fait un petit quiz vrai-faux pour expliquer ce que c'est Frontex. Alors on revient très vite fait sur Frontex, qu'est-ce que c'est. Alors ça a été créé pour empêcher l'accès à ces 42 km de côte, 9000 km de frontières terrestres et 300 aéroports. Et bien l'Union européenne a créé en 2004 cette agence européenne pour la gestion et la coopération aux frontières extérieures, d'où son nom Frontex, qui est basée à Varsovie. Depuis sa création, Frontex n'a cessé de voir ses ressources augmenter. 19 millions d'euros en 2006, 97 millions en 2014, 254 millions en 2016, soit une augmentation en 10 ans de 1336%. Voilà, c'est pas mal.
Et des hélicoptères et des bateaux.
Et ouais, c'est exactement ce qu'ils disent, des moyens militaires au service d'une agence civile et quasi indépendante. Par indépendante, ils veulent dire là sans contrôle, indépendante comme la presse peut être indépendante et c'est une bonne chose. Oui. L'opacité de Frontex, ses moyens, ses analyses et son défaut de responsabilité incitent souvent à la comparer à une armée déployée aux frontières de l'Europe. Donc c'est un peu comme ça qu'est introduit ce petit quiz. On va pas toutes les faire, ce sont pas forcément voilà. Par exemple, est-ce que petite première question, les flux migratoires vont des pays pauvres vers les pays riches, vrai ou faux?
Vrai.
Eh ben non, c'est faux. La majorité des personnes qui se déplacent pour des raisons économiques ou à la recherche d'une protection le fait soit à l'intérieur de son propre pays, soit dans des pays voisins pour des raisons économiques pratiques. Bon, voilà, vous imaginez. Tout ça est chiffré. Je vous dirai pas les chiffres sinon ça va être pénible. Si les pays du Sud étaient développés, les gens ne partiraient pas. Vrai ou faux? Vous avez le droit des fois de dire vraiment ce que vous pensez.
Bah, certainement, il y en a qui partiraient quand même, non?
Alors oui, mais c'est pas la majorité. Les autorités, les études montrent plutôt que non. Et en tout cas, c'est un des gros trucs qui est instrumentalisé. Alors on aurait plutôt tendance à dire en tout cas, vaut mieux plutôt filer du pognon pour que les pays s'en sortent un peu mieux. Mais sauf que depuis 2001, par exemple, l'UE conditionne toute forme de coopération Donc, coopération, ça veut dire toute forme en général d'aide d'argent, financière. Ou d'aide financière ou quoi, à la signature d'un accord de réadmission. Alors, réadmission, ça veut dire que les pays veulent bien, sans trop regarder, accepter à peu près qui on leur présente comme étant ressortis de leur pays pour les expulser, par exemple, de la France. Donc voilà, et l'UE exerçait depuis 2015 une pression encore plus forte sur les États de coopération à cette fin. En 2016, plus de 30 ONG ont dénoncé le dévoiement de la politique de coopération pour mettre en œuvre une politique migratoire répressive.
Ah, et pour compléter ta question, il y a cette histoire de réchauffement climatique, c'est qu'il y a des gens qui vont peut-être quitter des pays parce que ça devient intenable, quoi.
Exactement. Est-ce que l'Union européenne contrôle uniquement ses propres frontières ?
Vrai ou oui.
Eh bien non.
Contrôle, disons, des fois un peu loin des frontières elles-mêmes.
Eh bien c'est ça, depuis 20 ans, hein, l'UE externalise ses frontières. Elle délègue la gestion à des pays dits tiers. Frontex participe à cette externalisation, hein, formation des gardes frontières, des gardes-côtes, coopération et échange d'informations avec plus de 43 pays dans le monde, déploiement d'argent hors d'Europe, etc., etc. Est-ce que Frontex est une agence de sauvetage ?
Non.
Ah, ben ça y est, vous avez une bonne réponse quand même. Alors, le nouveau, parce que ça en avait parlé un peu il y a quelques années, le nouveau mandat de l'agence intègre le règlement européen de 2014 relatif aux opérations maritimes selon laquelle Frontex doit porter secours aux personnes en détresse en mer.
Et ça, je pense que c'est le code maritime. Hein,
exactement, donc, c'est exactement ce que précise le petit fascicule. Hein, donc ça a été intégré en 2014 hein, dans le mandat de Frontex. Comme le rappelle Migre Europe et toutes les autres assos, cela constitue juste un rappel des obligations qui incombent à tout navire selon le droit international de la mer. Donc voilà, en gros. Quand même, petite anecdote. Hein. La plupart des sauvetages hein, sont faits de la marine marchande et des bateaux affrétés par des ONG qui, malgré leurs faibles moyens, portent secours aux personnes en détresse en mer. Ce que critique le directeur de Frontex, qui les accuse à tort, précise le rapport, hein, de collusion avec les passeurs. Pardon. Donc pour le directeur de Frontex, quand on sauve des gens en mer, des migrants qui plus est, on fait le jeu des passeurs.
Mais parce que si ça se trouve, c'est vrai qu'il y a des passeurs qui comptent sur ces sauvetages à des moments, ou en tout cas qui comptent ou qui s'en foutent, mais qui envoient les gens sur des bateaux qui vont réellement couler en se disant, de toute façon, il y a bien des associatifs ou des gens de la marine marchande qui vont pas les laisser se noyer. Et alors, est-ce que la réponse à ça, en tout cas pour le directeur de Frontex, ça a l'air clair, c'est qu'il vaut mieux les laisser couler une bonne fois pour toutes. Ça peut sembler, disons, éthiquement discutable.
Lui qui fait son beurre, quand même, peut-on dire, sur le contrôle des frontières et aussi la mort des migrants en mer. Les politiques migratoires européennes ont des conséquences mortelles. Bon, là, j'imagine que vous connaissez la réponse.
Ça doit être non.
Non, oui, bien sûr. Eh bien, c'est vrai. Hein, alors, on rappelle ces terribles chiffres. En Méditerranée, les tragédies ne cessent d'augmenter. 3700 personnes sont mortes ou disparues en 2015, d'après le HCR, et plus de 5000 morts en 2016.
Les vrais chiffres, c'est qui étaient dans les journaux là ces derniers jours, c'était 14 000 morts sur les dernières années, et ils précisaient bien que un bateau qui coule, si on le voit couler et voilà, on peut éventuellement récupérer les corps. Si on voit pas couler le bateau, on pourra pas récupérer les corps. Donc c'est 14 000, c'est une borne inférieure, comme on dit en maths, mais c'est largement plus.
C'est ça.
C'est pas une histoire de chiffres, c'est pas que 20 000 c'est beaucoup plus dramatique que 14 000, mais c'est juste que non seulement personne connaît Frontex malheureusement, mais en plus personne connaît vraiment l'immensité du drame qui se passe pour passer de l'autre côté. Et bon,
c'est ça. Et là, les chiffres que je donnais, c'était bien sûr que pour la mer Méditerranée, et qu'il y a bien sûr plein d'autres mers, notamment la mer Égée, et puis plein d'autres, tout un tas d'autres. Frontex serait une simple agence de coopération technique. Vrai ou faux? Vous comprenez pas trop la question, moi non plus.
Bah oui.
Voilà. Et ben, c'est, en gros, c'est de dire que
elle est pas censée prendre de décision.
Exactement. Voilà. Et ben, c'est tout simplement faux, hein, puisque ça nie l'autonomie de l'agence et ce qu'on en parle, on en parlait tout à l'heure. Et l'agence n'a pas à justifier et sur ce qu'elle a à faire. Elle est dotée de la personnalité juridique. Alors ça, c'est un peu technique, mais j'imagine que elle est, par exemple, elle peut signer un titre d'exemple des accords de coopération avec des autorités de pays tiers et avec d'autres organisations, ce qui est quand même, ça fait un peu le rôle d'un État dans l'État. Enfin, vous voyez ce truc.
Ouais, mais ça, si tu veux, c'est ce qui se voit du côté de l'Europe. Frontex, c'est comme une espèce de commission au niveau de l'Europe, et c'est donc sans contrôle. Donc, c'est une espèce de micro-entreprise publique qui fait son petit business et puis qui fait ce qu'il veut, quoi.
Ouais. C'est ça.
C'est un peu ça. Ça se voit à ce niveau-là, mais ça se voit à d'autres niveaux.
Cette opacité-là, ça rend l'information sur Frontex très très compliquée, et ça donne aussi, vous imaginez bien que c'est encore plus compliqué si vous êtes un migrant, que vous avez affaire à des agents Frontex qui violent vos droits, ce qui arrive quand même très régulièrement. Et bien, c'est très compliqué de pouvoir se protéger de ses propres droits et de se retourner contre Frontex. Hein, le mécanisme de plainte intégré au nouveau mandat est une coquille vide, hein, nous dit le rapport. La procédure interne administrative est enclenchée à la discrétion seule du directeur de l'agence, sans jamais la mettre en cause. Petite question, j'imagine vous connaissez la réponse. Frontex ne renvoie personne vers des pays dangereux.
Ah ouais,
c'est bien sûr faux. Ce principe est donc rappelé dans le mandat. Donc, dans ce mandat, il y a à peu près tout un tas de principes que l'agence fait en sorte de ne pas respecter, hein, vous verrez. Donc c'est pour, si vous cherchez des informations sur Frontex, vous tombez sur le mandat de Frontex, vous dites ah ouais bon, ça c'est quand même plutôt bien encadré. Et ben non, pas du tout. Donc c'est difficile de garantir le droit, hein, là, ce qu'ils nous rappellent, surtout lors de leurs opérations, puisque bien sûr ils ne communiquent pas et leurs plans opérationnels sont complètement invisibles du public. Et dernière question, hein, le Parlement, ça, on a donné la réponse déjà. Les parlements contrôlent les accords signés par Frontex, et c'est bien évidemment faux. Merci, vous avez suivi. L'agence peut signer des arrangements de travail avec des organisations internationales, on en parlait tout à l'heure, 18 à ce jour, y compris avec la Turquie, la Biélorussie et le Nigeria. Médiatiquement, la Turquie en ce moment, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ceci prévoit la participation de l'État de coopération à des opérations conjointes en tant qu'observateur, vol de retour, observation de surveillance aux frontières, la formation de gardes frontières ou encore des échanges d'informations. Ces arrangements ne sont pas contrôlés par les parlements nationaux et régionaux. Voilà pour ce qui est de Frontex. Tout ça, ce fascicule, ça se glisse dans une campagne qui s'appelle Frontexit, qui est menée par Migre Europe. Alors je vais pas tous les citer, mais Fasti, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, la EDH, le GADEM, bon bref, tout un tas, hein. Vous trouverez plus d'informations là-dessus sur migreeurope.org, et le Frontexit, comme son nom l'indique, est une campagne menée par des associations du nord et du sud de la Méditerranée à l'initiative du réseau Migre Europe pour faire sortir l'Europe de Frontex et donc détruire Frontex.
Donc tu nous fais l'info sur Cocopelli ?
Je vais pas avoir le temps, hein.
Ah, allez, en résumé.
Vas-y, c'est bon, il y a les micros.
Il y a les micros, ouais. On va faire un petit conseil de lecture double. Un premier conseil de lecture, c'est le journal CQFD qui est sorti donc au mois de juin avec un exemplaire plutôt assez réussi. Très rapidement, pour vous parler d'un article qui s'appelle Frontières et honoraires, qui nous évoque juste le fait que de nombreux cas, l'État est représenté par des avocats grassement payés dans tout un tas de tribunaux administratifs, de démarches administratives administratives qui sont en général pour appuyer donc cette politique de détention et de refoulement des migrants ou des sans-papiers, voilà. Donc ça c'est très intéressant, on voit que une part substantielle de l'argent commun sert à payer donc des avocats, avec un petit exemple sur un très gros cabinet d'avocats qui est avec des gens très sympas, par exemple qui ont été préfets délégués pour la défense et la sécurité à Lyon, enfin des choses comme ça, voilà. Dans CQFD, page 4, page 9, dans CQFD, un autre article assez intéressant, ça parle de Cocopelli, vous savez, cette association qui est censée être une espèce de sanctuaire pour tout ce qui est la biodiversité alimentaire en termes de graines, donc une espèce de dépôt de graines dans toute la biodiversité qui peut y avoir. Et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Nous n'irons plus pointer chez Gaïa » avec des interviews de plusieurs personnes qui ont été auteurs de ce livre collectif et qui nous expliquent que Cocopelli, ça avait l'air bien au début, mais qu'en fait ça a tourné au vinaigre, au sens où il y a une façon de diriger l'entreprise. Ah, je l'ai dit. Bah alors, il y a une façon de diriger la structure qui rappelle n'importe quelle entreprise, avec une dérive managériale complètement délirante. Si vous parlez des pauses, si vous parlez d'une mutuelle ou simplement vous évoquez vos droits de salarié, et ben en fait on vous fait la tronche à fond. C'est pas du tout une association militante, nous dit par exemple une salariée Julie, mais en fait les gens sont juste des manutentionnaires pour une plateforme de vente de semences en ligne. Pire, ils sont aussi en appui d'une association qui s'appelle Semences sans frontières, et en fait Cocopelli envoie des graines qui sont complètement périmées. En plus, il les envoie à droite et à gauche sans faire gaffe du tout à l'adéquation entre le climat, les habitudes culinaires et puis les graines. Voilà. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, vraiment quelque chose qui ressemble pas du tout à ce qu'on croyait. Cocopelli qui se targue d'être un réseau de petits producteurs, mais qui aussi fait affaire largement dans des grandes largesses avec des grossistes qui produisent à bas coût, notamment en Italie. Et que si par hasard vous êtes un des rares petits producteurs paysans, ben en tout cas vous travaillez sans contrat et puis on s'arrange pour que vous n'ayez pas la possibilité de faire des choses de qualité. Bref, l'envers de la médaille de Cocopelli, c'est affligeant à lire dans CQFD, page 9. Voilà, ça c'était le conseil de lecture numéro 1. Et le conseil de lecture numéro 2, c'est un livre de Alain Mabankou qui vient de sortir. Ça s'appelle Petit Piment et c'est le déroulé en fait de la jeunesse d'un petit garçon du côté du Congo, donc ce qu'on appelait le Congo belge avant, dans la grande ville de Pointe-Noire. Brazzaville, c'est la grande ville administrative, mais Pointe-Noire, c'est la ville, c'est le poumon économique de ce Congo, où l'on voit, ça se passe dans les années 50, on voit arriver la révolution socialiste, et on voit ce gamin qui erre entre les difficultés, qui va après dans les bas-fonds de Pointe-Noire, et puis qui essaie de se débrouiller bon an mal an, et puis qui finit dans des difficultés qui l'emmènent, je vous dis pas tout, mais en prison. Toujours est-il que c'est un livre qui dépeint l'enfance et qui dépeint aussi, surtout peut-être, ce qui pouvait se passer dans les années 50-60 du côté du Congo. Petit Piment, Alain Mabankou.
Bien, il est 20h passé de 30 secondes. Le temps de laisser place à Idées Noires et qu'il s'installe dans les studios. Nous, on vous laisse. On vous retrouve la semaine prochaine.
Mais la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir notre rubrique Le fil d'Ariane avec les avocates qui viendront nous parler de
Violence conjugale.
À la semaine prochaine.
Merci de nous
avoir
écoutés. Ciao.